Bonjour Frédéric Adnet.
Bonjour.
Les personnels des hôpitaux se mobilisent une nouvelle fois aujourd'hui pour défendre la qualité des soins et leurs conditions de travail. Et à la veille de cette journée, 70 directeurs médicaux de l'hôpital public, dont vous, ont signé une tribune dans Le Monde pour alerter sur les difficultés que vivent les professionnels de la santé publique au quotidien. L'état des lieux que vous dressez avec vos collègues est alarmant. Vous parlez d'un point de rupture irréversible, c'est-à-dire qu'on est au bord de la catastrophe, on est sur le point de ne plus pouvoir revenir en arrière.
Oui, l'hôpital public actuellement vit une crise sans précédent et même le mot crise est faible. Je dirais que cette tribune est un véritable cri de désespoir de l'ensemble des directeurs des départements médicaux universitaires. Cette tribune a été signée et c'est un fait assez incroyable quand on connaît l'individualisme des médecins, a été signée par 95% des directeurs des départements médicaux universitaires. Nous avons la certitude qu'actuellement l'hôpital public est en train de s'écrouler. Manque d'attractivité, fuite des personnels et en tout premier lieu des personnels soignants, fuite actuelle aussi des médecins du service public vers d'autres établissements de santé où les conditions de travail, les conditions de rémunération sont plus attractives.
Vous dites que les délais avec vos collègues, que les délais de programmation des interventions s'allonge, que les soins urgents ne sont plus réalisés dans des délais raisonnables et que par conséquent les usagers sont de plus en plus obligés de se tourner vers des établissements privés. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est peut-être aussi ce que l'on veut ?
Alors, force est de constater que effectivement l'hôpital public vit actuellement un écroulement de ses fondations et que nous n'avons plus les moyens aujourd'hui d'assurer notre mission principale, qui est d'assurer le juste soin et de prendre en charge correctement les patients. Nous n'en avons plus les moyens matériels, car je le répète, les personnels sont en train de quitter les établissements publics. Pourquoi ? Parce que les conditions de travail se dégradent de jour en jour. Ça fait une dizaine d'années qu'on nous pousse à faire de la productivité, à augmenter notre activité et à réduire nos dépenses. On a une gestion, si vous voulez, comptable et non plus centrée sur le patient, probablement due à la T2A. La résultante de ceci, sur ces baisses de dépenses, a été d'une aggravation des conditions de travail. Qu'est-ce que c'est que les conditions de travail ? C'est bien sûr le salaire, les rémunérations qu'il faut absolument aligner avec les autres hôpitaux, les autres établissements de santé et les établissements de santé privés. Donc augmenter les salaires, mais aussi, et je le vois très bien chez les aides-soignants, chez les infirmières, chez les manipulateurs radio, aider ces personnels à rester à l'hôpital public, c'est-à-dire leur donner des places en crèche dans l'hôpital.
On va revenir sur toutes ces revendications, mais il y a une chose à mon sens assez grave qui est évoquée dans cette tribune, c'est que vous dites qu'aujourd'hui on a des équipes soignantes qui sont maintenant démotivées, et ça c'est un pas important au fond qui est franchi psychologiquement, parce que la motivation, voire peut-être la foi dans ce métier, c'est sans doute ce qui faisait tenir jusqu'à maintenant un peu contre vents et marées.
Tout à fait. Moi, j'ai choisi la carrière de l'hôpital public parce que d'abord les études de médecine sont entièrement gratuites et donc je me sentais redevable vis-à-vis de la société et au travers le service public, je pensais bien assurer ma mission. Actuellement, c'est une catastrophe. Je ne peux pas comparer l'hôpital public d'il y a 20 ans avec l'hôpital public aujourd'hui. Nous n'avons plus les moyens d'assurer notre mission. Il y a une démotivation et un découragement de tous les personnels à tous les niveaux, de l'aide-soignant, de l'agent de salle jusqu'au chef de service. Et cette tribune est le meilleur reflet puisque elle est signée par les directeurs de départements médico-universitaires. Donc, si vous voulez, les chefs de service, des services, on va dire, multisites. À tous les niveaux, soignants, médecins, il y a un sentiment de découragement. Alors ça se traduit par une fuite massive à l'assistance publique hôpitaux de Paris. On a eu une perte de 1300 postes. Oui, il nous manque 800 infirmières.
Alors, vous parlez de postes de soignants budgétisés, mais qui ne sont pas pourvus.
Tout à fait, c'est postes vacants.
Alors, mais pour quelle raison ? Parce qu'on ne les trouve pas ? Parce que l'hôpital public n'est plus attractif ?
C'est exactement ça, parce que on n'a plus de candidats pour l'hôpital public. L'hôpital public a perdu de son attractivité.
Alors là, ce sont des questions salariales qui sont en jeu ?
Oui, bien sûr.
Pas seulement, mais pas seulement. Notamment.
Mais on peut pas passer sous silence que pour une infirmière débuter à 1 700 euros quand on habite la région parisienne, c'est quasiment impossible de trouver un appartement. On ne facilite pas la formation continue. On ne facilite pas les places en crèche à l'intérieur de l'hôpital. On ne facilite pas des logements qui seraient dédiés à ces personnels-là pour les rapprocher de l'hôpital. Et on donne des conditions salariales qui sont inférieures aux établissements de santé à proximité de l'hôpital public. Alors, vous comprenez bien que ces personnels de santé, les manipulateurs radio, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de soins, préfèrent quitter l'hôpital public plutôt que d'avoir des conditions de travail
Pour aller gagner beaucoup plus d'argent dans le privé. Évidemment, les différences de salaire sont absolument considérables. Le résultat de tout cela, c'est une surcharge de travail considérable pour ceux qui sont encore à l'hôpital public, d'où peut-être ce point de rupture que vous évoquez, au fond.
Exactement. La résultante, c'est que, faute de personnel, on ferme des lits, on ferme des services. Faute de personnel, de manipulateurs radio, on retarde les radios des patients qui sont hospitalisés, ce qui nous allonge les durées d'hospitalisation. Si vous voulez, le service rendu se dégrade à cause de ce manque d'attractivité et à cause de cette fuite de personnel.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la T2A, qui est un terme sans doute un peu technique. C'est la tarification à l'acte, je crois. Est-ce que vous pouvez dater, au fond, le début de ce processus de détérioration de l'hôpital public ? Parce que on a l'impression que ça fait des années qu'on le dit.
Voilà. Alors, le changement de paradigme a eu lieu à l'instauration de la T2A. Globalement, c'est en 2009. En 2009, on a commencé...
Sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Oui. On a commencé à orienter notre activité, non pas sur un paradigme centré sur le soin pour le patient et le bon soin pour le patient, mais plutôt sur une gestion dépenses et recettes de l'hôpital. La gouvernance de l'hôpital a perdu son pouvoir médical et a été transférée vers des directeurs d'hôpitaux qui ne sont pas médecins, mais pour qui la bonne santé d'un hôpital est, si vous voulez, une bonne gestion recettes-dépenses. Mais c'est un système complètement kafkaïen, puisque les recettes de l'hôpital public, c'est le déficit de l'assurance maladie. Autrement dit, on a de l'argent public. Plus un hôpital gagne de l'argent, plus il aggrave les comptes publics. Alors, qu'est-ce que nous répond les comptes publics au travers de l'ONDAM, qui est notre payeur? Eh ben, il va baisser ses tarifs, parce que ça, l'ONDAM, c'est une enveloppe fermée.
C'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.
Des dépenses d'assurance maladie. Donc, c'est notre payeur, on va dire, à 70-80%. Et donc, on a une espèce de course à l'échalote où on va essayer d'augmenter notre activité et nos payeurs nous répondent en baissant les tarifs. Donc, on n'arrivera jamais à arriver à l'équilibre avec ce système-là. Alors, et d'ailleurs, la ministre, ça fait quelques mois qu'elle annonce la fin de la T2A. Force est de constater même aujourd'hui qu'on est toujours sous le même paradigme.
Alors, parmi les revendications que vous formulez précisément, il y a la hausse de cette objectif national des dépenses d'assurance maladie. Dans quelle proportion ? Qu'est-ce que vous demandez précisément ?
Alors, il y a deux choses. Il y a l'enveloppe globale de l'ONDAM, donc les objectifs nationaux de dépenses de l'assurance maladie. L'évolution normale de l'ONDAM, si vous voulez, est liée à l'augmentation de salaire, du coût de la vie, etc., est de 4%. Ouais. Actuellement, on nous propose une augmentation de 2,3%, ce qui veut dire qu'en gros, on va encore avoir des restrictions budgétaires à hauteur de 2% ou de 1,7%. Ce qu'on réclame, c'est d'avoir un ONDAM positif, c'est-à-dire un peu plus de 4%, on va dire 5%. L'ONDAM ne finance pas que les hôpitaux publics, finance tout le système de santé en France. Et d'augmenter peut-être aussi la part, le pourcentage lié aux dépenses de l'hôpital public à l'intérieur de cette enveloppe de l'ONDAM. Alors, ça représente quoi? Écoutez, il y a des économistes qui ont fait leurs calculs. Ça représente, c'est un véritable plan Marshall pour l'hôpital public, c'est 15 à 20 milliards en 5 ans.
Très rapidement, vous espérez que la journée d'aujourd'hui puisse faire bouger les choses?
Ça va être un vrai test. Ce que j'ai l'impression à l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est que tous les personnels sont très motivés pour défendre leur hôpital public. Et je pense que cette manifestation devrait être un grand succès.
Merci Frédéric Adnet. Bonne journée.